Alexandre Pouchkine, La Dame de Pique, traduit par Prosper Mérimée, chapitre 1. On jouait chez Narournov, lieutenant aux gardes à cheval. Une longue nuit d'hiver s'était écoulée sans que personne s'en aperçût, et il était 5 heures du matin quand on servit le souper. Les gagnants se mirent à table avec grand appétit. Pour les autres, ils regardaient leurs assiettes vides. Peu à peu, néanmoins, le vin de champagne aidant, la conversation s'anima et devint générale. « Qu'as-tu fait aujourd'hui, Sourine ?» demanda le maître de la maison à un de ses camarades. « Oh, comme toujours, j'ai perdu. Oh, en vérité, j'ai pas de chance. Je joue la mirandole, vous savez si j'ai du sang-froid. Je suis un pont impassible, jamais je ne change mon jeu, et je perds toujours. » Commandant, dans toute la soirée, t'as pas essayé une fois de mettre sur le rouge? Oh, en vérité, ta fermeté me passe. Comment trouvez-vous Hermann? Dit un des convives en montrant un jeune officier du génie. De sa vie, ce garçon-là n'a fait un paroli, ni touché une carte, et il nous regarde jouer jusqu'à 5 heures du matin. Le jeu m'intéresse, dit Hermann, mais je ne suis pas d'humeur à risquer le nécessaire pour gagner le superflu. Hermann est allemand. Il est économe, voilà tout, s'écria Tomski. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est ma grand-mère, la comtesse Anna Fedotovna. Pourquoi cela? Lui demandèrent ses amis. N'avez-vous pas remarqué, reprit Tomski, qu'elle ne joue jamais? Non, en effet, dit Narournov, une femme de 80 ans qui ne ponte pas. Cela est extraordinaire. Vous ne savez pas le pourquoi? Non. Est-ce qu'il y a une raison? Oh, bien. Écoutez, vous savez que ma grand-mère, il y a quelque 60 ans, alla à Paris et y fit fureur. On courait après elle pour voir la Vénus Moscovite. Richelieu lui fit la cour, et ma grand-mère prétend qu'il s'en fallut peu qu'elle ne l'obligeât par ses rigueurs à se brûler la cervelle. Dans ce temps-là, les femmes jouaient au pharaon. Un soir, au jeu de la cour, elle perdit sur parole contre le duc d'Orléans une somme très considérable. Rentrée chez elle, ma grand-mère ôta ses mouches, défit ses paniers et, dans ce costume tragique, elle a conté sa mésaventure à mon grand-père en lui demandant de l'argent pour s'acquitter. Feu, mon grand-père était une espèce d'intendant pour sa femme. Il la craignait comme le feu, mais le chiffre qu'on lui avoua le fit sauter au plancher. Il s'emporta, se mit à faire ses comptes et éprouva à ma grand-mère qu'en 6 mois, elle avait dépensé 500 000. Il lui dit nettement qu'il n'avait pas à Paris ses villages, des gouvernements de Moscou et de Saratov, et conclut en refusant les subsides demandés. Ah, vous imaginez bien la fureur de ma grand-mère. Elle lui donna un soufflet et fit lit à part cette nuit-là en témoignage de son indignation. Le lendemain, elle revint à la charge. Pour la première fois de sa vie, elle voulut bien condescendre à des raisonnements et des explications. C'est en vain qu'elle s'efforça de démontrer à son mari qu'il y a dettes et dettes et qu'il n'y a pas d'apparence d'en user avec un prince comme avec un carrossier. Toute cette éloquence fut en pure perte. Mon grand-père était inflexible. Ma grand-mère ne savait que devenir. Heureusement, elle connaissait un homme fort célèbre à cette époque. Vous avez entendu parler du comte de Saint-Germain dont on débite tant de merveilles. Vous savez qu'il se donnait pour une manière de juif errant, possesseur de l'élixir de vie et de la pierre philosophale. Quelques-uns se moquaient de lui comme d'un charlatan. Casanova, dans ses mémoires, dit qu'il était espion, quoi qu'il en soit. Malgré le mystère de sa vie, Saint-Germain était recherché par la bonne compagnie et était vraiment un homme aimable. Encore aujourd'hui, ma grand-mère a conservé pour lui une affection très vive Et elle se fâche tout rouge quand on n'en parle pas avec respect. Elle pensa qu'il pourrait lui avancer la somme dont elle avait besoin et lui écrivit un billet pour le prier de passer chez elle. Le vieux thaumaturge accourut aussitôt et la trouva plongée dans le désespoir. En deux mots, elle le mit au fait, lui raconta son malheur et la cruauté de son mari, ajoutant qu'elle n'avait plus d'espoir que dans son amitié et son obligeance. Saint-Germain, après quelques instants de réflexion, « Madame, dit-il, je pourrais facilement vous avancer l'argent qu'il vous faut, mais je sais que vous n'auriez de repos qu'après me l'avoir remboursé, et je ne veux pas que vous sortiez de l'embarras pour vous jeter dans un autre. » Il y a un moyen de vous acquitter. Il faut que vous regagniez cet argent. Mais mon cher comte, répondit ma grand-mère, je vous l'ai déjà dit, je n'ai plus une pistole. Vous n'en avez pas besoin, reprit Saint-Germain, et écoutez-moi seulement. Alors, il lui apprit un secret que chacun de vous, j'en suis sûr, paierait fort cher. Tous les jeunes officiers étaient attentifs. Tomski s'arrêta pour allumer une pipe, avala une bouffée de tabac et continua de la sorte. Le soir même, ma grand-mère alla à Versailles au jeu de la reine. Le duc d'Orléans tenait la banque. Ma grand-mère lui débita une petite histoire pour s'excuser de n'avoir pas encore acquitté sa dette, puis elle s'assit et se mit à ponter. Elle prit trois cartes. La première gagna. Elle doubla son enjeu sur la seconde, gagna encore, doubla sur la troisième, bref, elle s'acquitta glorieusement. « Pur hasard !» dit un des jeunes officiers. « Quel compte !» s'écria Hertmann. « Bon, c'était donc des cartes préparées, » dit un troisième. « Je ne le crois pas, » répondit gravement Tomski. « Comment ? » s'écria Nahournov, « tu as une grand-mère qui sait trois cartes gagnantes et tu n'as pas encore su te les faire indiquer ?»« Ah, c'est là le diable !» reprit Tomski. « Elle avait quatre fils, dont mon père était l'un. Trois furent des joueurs déterminés et pas un seul n'a pu lui tirer son secret, qui pourtant leur aurait fait grand bien, et à moi aussi. » Mais écoutez ce que m'a raconté mon oncle, le comte Ivan Illich, et j'ai sa parole d'honneur. Tchaplinski, vous savez celui qui est mort dans la misère après avoir mangé des millions, un jour, dans sa jeunesse, perdit contre Zonch environ 300 000 roubles. Il était au désespoir. Ma grand-mère, qui n'était guère indulgente pour les fredaines des jeunes gens, je ne sais pourquoi, faisait exception à ses habitudes en faveur de Tchaplinski. Elle lui donna trois cartes à jouer, l'une après l'autre, en exigeant sa parole de ne plus jouer ensuite de sa vie. Aussitôt, Tchaplinski alla trouver Sonch et lui demanda sa revanche. Sur la première carte, il mit 50 000 roubles. Il gagna, fit parolie. En fin de compte, avec ses trois cartes, il s'acquitta et se trouva même en gain. Ah, mais voilà 6 heures, ma foi. Il est temps d'aller se coucher. Chacun vida son verre et l'on se sépara.